Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la bande dessinée La Culture Libre avec nos deux personnes invitées, David Revoix, auteur de BD au téléphone, et J, auteur multimédia depuis le studio. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Le sujet principal d'aujourd'hui est préparé par Laurent Costi, oui, encore lui, mais cette fois en direct depuis le studio et avec sa casquette de chargé de mission éducation et com numérique au CMEA. Laurent animera également l'échange avec nos deux personnes invitées. C'est pourquoi je lui passe la parole. Bonjour Laurent.
Bonjour Isabella, merci beaucoup pour cette parole. Effectivement, nous avons invité J et David Revoix, donc respectivement auteurs multimédia. Ils vont vous expliquer mieux que moi. Et puis auteur de BD. Bonjour J.
Salut Laurent.
Bonjour David, est-ce que tu nous entends? Tu es au bout du téléphone?
Oui, je vous entends bien.
Parfait.
Bonjour à tous.
C'est impeccable. Eh bien, on va vite rentrer dans le sujet parce qu'en fait, on a préparé l'émission ensemble. Vous aviez énormément de choses à dire, donc on va pas épiloguer. Je vais vous demander de vous présenter chacun et puis expliquer peut-être votre parcours dans la foulée. Comment vous en êtes arrivé à faire de la BD, entre autres. Alors, Thierry ?
Ouais, je commence.
Ouais, je t'en prie.
Alors, oui, j'avais dit auteur multimédia. C'est un peu un terme bizarre, mais bon, c'est pour dire que je fais beaucoup de choses. Je fais de la BD, mais aussi des romans, de la musique. Je travaille sur un jeu vidéo. Je fais des chroniques radio ici aussi, de temps en temps. Et mon parcours, je vais essayer d'aller vite parce que je sais que David a plein de trucs à dire. Mais en gros, je pense que tout le monde dit un peu ça, mais je fais du dessin depuis que je suis tout petit. J'avais un peu arrêté à l'adolescence parce que c'était plus stylé de faire de la guitare, même si en vrai ça m'a jamais apporté beaucoup beaucoup de popularité, mais peu importe. Et en fait j'ai fait une prépa scientifique après le bac, hein. Je me suis pas orienté vers l'art, mais quand tu fais une prépa de ce style-là, tout le monde te dira que tu mets un peu les loisirs de côté. Du coup, j'avais un peu laissé tomber tout ce qui était dessin, musique, tout ça. Et quand je me suis retrouvé en école d'ingénieur avec beaucoup de temps libre, finalement, je me suis dit que j'allais reprendre. Et c'est un peu sur un coup de tête que j'ai ressorti une vieille tablette graphique Wacom que j'avais. Et je me suis lancé dans un blog qui s'appelait Le Geekctionnaire à l'époque. Donc ça, c'était en 2009. Et oui, ça commence à faire. Très rapidement, donc j'ai fait une thèse d'informatique et j'ai travaillé comme développeur. Et il y a un an et demi de cela, donc c'était à l'été 2021, je me suis dit que j'en avais un peu marre de faire de l'art juste sur le temps libre. Et du coup, j'ai quitté mon boulot, enfin j'ai tout plaqué pour devenir auteur à plein temps. Voilà.
C'est courageux. Tu vas nous expliquer après tout à l'heure un peu la suite et ce que ça implique. Écoute, David, à toi de te présenter.
Oui, alors pour ma part, oui, ça va prendre un peu plus de temps parce que je suis plus vieux. Je pense que je suis plus vieux que J. Hein,
pas tant
y a
ça.
Peut-être, je pense que j'ai bien 10 ans de plus que toi. En tout cas, je suis un enfant des années 80. Et donc, et pareil, tronc commun, je suis un enfant qui dessine beaucoup, beaucoup, qui a les premiers ordinateurs à la maison. Et puis, voilà, je vais grandir là-dedans. Je vais essayer de m'orienter vers le dessin. On me propose, le conseil d'orientation, un bac techno. Et c'est ce que je vais faire, même si c'est pas les choses que j'aime bien, parce que on nous apprend plutôt à dessiner des pinces à linge ou des croquis de mode ou bien des objets un peu design comme les premiers téléphones portables des années 2000. Mais voilà, donc c'est pas vraiment ce qui me branche. L'adolescence, moi, c'était beaucoup sur l'indépendance, la rébellion, et je vais quitter mes études juste après le bac et je vais commencer à faire du portrait de rue. Loin de chez mes parents, je voulais avoir mon appartement très vite, je voulais être très indépendant. Et je vais faire aussi de la peinture sur chevalet pour faire des expos, pour vendre des peintures. On est au tout début des années 2000, là je reprends contact avec Internet, parce qu'on me dit ça serait bien d'avoir une galerie en ligne. À l'époque, c'est le nec plus ultra, les gens qui ont ça sur leur petite Wanadoo. Donc c'est ce que je fais. Et puis je découvre qu'il y a des gens qui dessinent sur tablette. Donc mes soirées vont être passées sur tablette à dessiner des illustrations, où là il n'y a plus de problème de couleurs, de toiles, de trucs comme ça. Et je vais m'apprendre en autodidacte un peu tout ce qui est le numérique, à dessiner numériquement, avec les logiciels propriétaires, hein, premièrement. Et je vais commencer à avoir des demandes de boulot là-dedans pour faire de l'illustration. Et je vais très vite abandonner mon métier de peintre et de portraitiste pour pouvoir faire que de l'illustration, de jeux de société, de couverture de livres. Enfin, j'ai tout un passé là-dedans. Et à un moment donné, je vais avoir un gros crash dans mon parcours sur un foutage de gueule des logiciels propriétaires. On pourra peut-être en reparler plus tard. Et qui va me faire passer au... Voilà, ça va me faire passer encore sur le temps libre au logiciel libre, et c'est là que la Blender Foundation vont avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir faire les dessins préparatoires entre le scénario et les modèles 3D pour faire leurs films d'animation. Et donc, bah, comme je dessine avec les logiciels libres et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui dessinent avec les logiciels libres, parce que ouais, dessiner sur Linux et puis avec les logiciels libres de l'époque, on est bien avant 2010. Hein, donc c'est un peu plus ardu, et ça va attirer donc la Blender Foundation qui vont me dire bah, ça serait bien que tu fasses ça sur nos films. Et donc j'ai travaillé après sur quelques courts-métrages avec la Blender Foundation en concept art, en direction artistique. Et en ressortant de là, ben voilà, j'avais le virus du libre qui était à fond maintenant pour le côté culturel, et donc j'ai fait ma propre bande dessinée libre, puisque à la base, quand même, le rêve de l'adolescent, avant tout ces trucs-là, c'était de faire de la BD, mais c'était le truc inavouable, quoi, le truc qui n'était pas du tout adapté socialement. Donc en faisant un webcomic, ça s'est fait un peu sur un petit burn-out dans ma carrière de freelance à ces moments-là. Ben voilà, j'ai commencé à faire une BD sur le blog. Et puis ben voilà, ça a pris, et ben voilà, ça fait 9 ans maintenant que je fais Pepper et Carotte et que j'en vis, et au fur et à mesure du temps aussi, je me suis rapproché de ceux qui m'avaient mis le pied à l'étrier quand j'ai commencé le libre, donc l'association Framasoft, et maintenant je fais un peu les deux, je fais du Pepper et Carotte et l'illustration pour les campagnes de Framasoft.
Oui, effectivement, voilà. Le dessin est assez reconnaissable. Hein. Quand on côtoie un peu Framasoft, effectivement, on retrouve très vite tous tes dessins. Et c'est vrai que ça donne un cachet aussi aux campagnes de Framasoft et une identité qui est remarquable. Alors, tu as un peu répondu à la question suivante. Alors, la question suivante que je vais expliciter peut-être plus pour Guy, et puis tu pourras compléter après éventuellement. Mais du coup, expliquer comment vous avez cheminé pour arriver à mettre sous licence libre vos productions, finalement. Alors, la question est un peu longue, hein, je ne sais pas faire des questions courtes. Est-ce que l'on peut vous qualifier de masochiste quand on appréhende un peu toute la difficulté qu'il peut y avoir à réussir à vivre de son art quand on dessine? Ça, c'est quand les gens connaissent un peu le monde de la bande dessinée. Et qu'est-ce qui vous a amené à aller à contre-courant et à vous ajouter encore une couche de difficulté?
Bon, alors sur le côté masochiste, je sais pas trop, parce que j'ai l'impression, non mais enfin, je dis, par rapport, on va dire, au droit d'auteur classique, je suis pas sûr que ce soit lié au fait de publier sous licence libre qui rend les choses plus compliquées. Il y a des tas d'artistes qui publient sous copyright classique qui galèrent. Donc après, pourquoi j'en suis venu là? Ben, alors moi j'ai essayé de réfléchir et je pense que j'ai identifié 3 responsables. Alors spoiler, hein, le dernier c'est aussi Framasoft, mais avant ça je pense qu'il y a eu 2 responsables qui étaient Napster et Windows Vista. Alors Napster parce que ben je fais partie des gens qui ont eu internet assez tôt en France, enfin c'était mes parents, hein, mais du coup j'en ai profité, c'était aux alentours de 98-99 je dirais, quelque chose comme ça, et c'est vrai qu'à ce moment là très vite on a découvert Napster.
Alors il va falloir expliquer peut-être aux plus jeunes Napster, de nos écoutants et écoutantes, ouais, ce que c'est.
C'est un peu le tout premier logiciel de, on va utiliser le mot, de piratage, principalement de musique, hein, je crois que c'était à ce moment-là, je me demande si ça faisait même pas que ça. Ça a été l'avènement, voilà, du MP3, du format de musique qui était plus léger que le format WAVE qui était le format de l'époque, et qui a permis aux gens de s'échanger de la musique de manière complètement libre, entre guillemets, sur Internet sans payer. Évidemment, les CD comme on les payait à l'époque. Et c'est vrai que moi, forcément, comme j'avais internet à ce moment-là, j'ai piraté pas mal de trucs. Et quand il y a eu après les campagnes anti-piratage, tout ça, pirater c'est du vol, tout ça, c'est vrai que ça m'a jamais trop convaincu. Moi j'avais la sensation que c'était quand même plutôt une bonne chose, hein, qu'il y ait cette possibilité de partager des œuvres. Et puis en plus c'est vrai que moi j'ai découvert énormément de choses avec le piratage, et j'ai écouté beaucoup de choses, dont pas mal que j'aurais jamais acheté en vrai, déjà parce qu'en termes de volume c'était trop, hein, moi j'avais pas assez d'argent pour acheter tout ça, donc du coup voilà, le côté manque à gagner du piratage, oui il y en a, mais il est pas si évident que ça, et bon, enfin je vais pas faire toute l'émission sur le piratage, mais peu importe. Donc en tout cas voilà, il y avait déjà quelque part, ça m'a déjà quand même apporté l'idée que la culture ça devrait quelque chose qui se partage assez librement, et que les questions économiques, bah, c'était une autre question quelque part. Ensuite, je disais, donc il y a eu Windows Vista, alors ça c'est un peu plus tard du coup, hein, mais là j'étais en prépa justement, donc, tout début de la prépa, c'était en 2007 je crois, donc je venais d'avoir mon tout premier ordi personnel, d'habitude j'étais toujours sur celui de mes parents, là j'avais un petit ordinateur portable avec Windows XP. dont j'étais très content par ailleurs. Et on commence à avoir les échos de Windows Vista où tout le monde disait que c'était vraiment pourri. Et du coup, moi je me disais, mince, il y avait marqué Windows Vista compatible sur mon truc. Je me dis, mais je vais peut-être pas passer à Windows Vista du coup. Et là, j'ai un ami qui me parle de Linux et qui me dit, ah bah en fait, si tu veux, il y a un autre truc qui est sympa, c'est Ubuntu. Alors à ce moment-là, c'était la 7.4, hein, du coup, 2007. Et donc, bah là, je me suis mis à Ubuntu en dual boot. Je sais pas s'il faut expliquer dual boot du coup.
Les deux systèmes d'exploitation sur le même ordinateur. Soit choisir de démarrer Windows, soit choisir de démarrer Linux.
Voilà, et du coup, c'est vrai que c'est un peu comme David qui parlait de Blender. Moi, c'est voilà, par Linux, je suis rentré dans les logiciels libres, forcément, je me suis mis à connaître un peu tout ça. Ce qui fait que quand j'ai lancé mon blog, le Geekctionnaire, de mon blog BD 2 ans plus tard, en 2009, il y avait énormément de blagues anti-Windows sur les écrans bleus de Windows, les bugs de Windows, tout ça. Bon, forcément, ça, c'était les trucs qui nous faisaient rire à l'époque, et pas mal de trucs sur le fait que Linux, c'était bien. Ce qui fait que très vite, c'est l'association Framasoft qui m'a repéré, entre guillemets, qui m'a dit « Est-ce que tu veux pas venir publier chez nous ?» Et à l'époque, mon blog, il n'y avait pas de licence. Je ne m'étais pas spécialement posé la question. Mais ils m'ont dit « Du coup, si tu veux venir publier chez nous, il faudrait que ce soit sous licence libre. » Donc là, j'ai regardé Creative Commons. Je pense que je connaissais déjà un petit peu, mais bon. Et c'est vrai que le choix n'a pas été dur. Là, j'en reviens au début, ça aurait été un peu hypocrite de ma part de télécharger plein de musique gratuitement comme ça et de dire « Ah non, mais moi, par contre, mon art, faut le payer. Hein. et mon art, il y a des barrières et tout. Enfin, » parce qu'on parlera du financement, c'est vrai. Je veux pas corréler complètement les deux, mais voilà, c'était l'idée de publier gratuitement et puis de laisser les gens en faire un peu ce qu'ils voulaient. Donc voilà.
Merci pour cet éclairage. Oui, alors effectivement, la question du piratage, on pourrait effectivement développer, mais dans l'éducation, c'est aussi un sujet, puisque à un moment donné, c'est bien gentil de vouloir promouvoir des logiciels privateurs et puis de ne pas avoir les capacités financières de les utiliser. Donc à un moment donné, finalement, l'alternative, New Linux, s'impose d'elle-même. Quoi. On fait de l'éducation et on accompagne les gens et on peut accompagner en toute sécurité. Quoi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce point en particulier, David ?
Oui. Si j'ai le temps.
Bien sûr. Écoute,
vous êtes mince. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, pour l'arrivée sur le logiciel libre, parce qu'il y a deux points pour moi, logiciel libre et culture libre, et l'un ne fait pas forcément l'autre. Et donc, par exemple, quand je suis arrivé au logiciel libre, le piratage, c'est grâce à ma rigidité à ne pas vouloir pirater, en quelque sorte, que je suis arrivé au logiciel libre. Puisque moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur une machine que j'ai mis à jour, Vista. Simplement, elle était, voilà, sous Vista encore. Hein. Et là, tous mes logiciels, tous ceux que je n'avais pas piratés, que j'avais acheté les licences, Photoshop, Painter et compagnie, ne sont pas compatibles avec cette nouvelle plateforme. Et je ne peux pas installer XP sur cette plateforme-là, que je viens d'acheter, sur un coup de tête. Donc, je dois acheter des services de mise à jour, des packs qui coûtent très cher, en fait, pour chaque logiciel, et ça n'avait pas beaucoup de fonctionnalités à part la compatibilité Vista. Et là, je me suis retrouvé un petit peu, un peu pris en otage, quoi. Et puis, je sentais qu'on en voulait à mon portefeuille sérieusement. Et donc, c'est ça qui m'a poussé, on va dire, à faire un crack et dire, bon, là, j'irai pas dans cette voie-là. Et qu'est-ce qu'il y a comme alternative à long terme pour pas qu'on me fasse les poches ou pas qu'il y ait une sorte de petite mafia autour de moi comme ça qui décide de mes usages, quoi. Donc oui, c'est ça qui a un angle. Et pour la culture libre, eh bien voilà, je suis passé par la Blender Foundation. Au début, j'avais un peu peur de leur licence, la Creative Commons Attribution. Moi, je connaissais pas, je publiais pas comme ça sur mon blog mes dessins, c'était en copyright tout simplement. Et j'ai vu que avec les concept art de Sintel et compagnie, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que il y a eu une petite période où je me suis dit bon ça y est, elle va être reprise la personnage, ou quelqu'un va copier mon style, ou il y avait vraiment une sorte de paranoïa en fait de ce qui pouvait se passer en mettant l'art en libre. Et j'ai vu en fait qu'il y avait que des effets un peu bénéfiques, hein, de dérivation, de propagation. Donc cette peur-là s'est dissipée et c'est là où j'ai commencé à l'adopter pour mon blog. Et puis après, il y a eu une prise de conscience que la culture propriétaire était partout quand j'ai fait ma BD. C'est-à-dire que je ne pouvais pas reprendre les univers propriétaires qui étaient déjà en place. Tout était déjà verrouillé et que pour créer une sorte de nouvelle culture, c'est très difficile. Il faut slalomer entre tout ce qui est fait, et à notre époque, il y a énormément de choses qui étaient faites. Hein. Surtout quand je fais une sorcière, on me dit très vite « Ah mais ça c'est Little Witch Academy, ah non ça c'est Kiki, ça non c'est les sorcières de Pratchett. » Voilà, c'est un slalom pour ne pas reprendre des références, pour pouvoir créer son propre truc. Et c'est là qu'on voit que ils ont beaucoup de choses, mais bon, là je m'étale un petit peu, je suis désolé de rentrer dans
le
grand
final.
Non, pas du
tout, c'est extrêmement intéressant, et c'est extrêmement intéressant de vous écouter aussi sur ce qui a déclenché finalement votre passage à la culture libre ou au logiciel libre finalement, c'est le fait de se sentir un peu, à un moment donné, prisonnier quoi, hein, mais voilà. Alors on me pose la question dans le chat de savoir, d'expliquer peut-être rapidement ce qu'est Blender, tu peux expliquer ?
Alors c'est un logiciel libre de 3D, donc c'est, on va pouvoir faire des objets en 3D, mais aussi leur mettre des squelettes d'animation, les animer, faire le rendu, et donc faire un film, et même à une époque c'était pour pouvoir faire des jeux vidéo de A à Z, et voilà, ça peut maintenant servir à faire des modèles de jeux vidéo, enfin voilà, c'est toute une suite 3D très libre, et qui font des projets, qui ont eu dans 2010 des projets pour pouvoir améliorer le logiciel, où ils faisaient un film libre en crowdfunding, et voilà, c'était en... il faisait donc un appel de budget, et tous ceux qui des personnes de la communauté Blender étaient réunis dans un studio à Amsterdam pour pouvoir faire un film, et il y a eu des films comme ça, Cosmos Landromat, Sintel, Big Bug Bunny, etc. Voilà, vous.
Oui, on les trouve facilement finalement sur Internet, puisqu'ils sont en plus sous licence libre, donc on peut en profiter, et on voit bien qu'effectivement la qualité, elle est remarquable, quoi. On a des animations qui sont juste incroyables, quoi.
Ah, donc, c'est super.
Voilà, non, mais moi je trouve ça extraordinaire. Big Bunny, non, comment tu disais le titre?
Big Bug Bunny.
Voilà, ça c'était un des premiers courts-métrages qui a été promu et auquel on associait Blender. Effectivement, moi j'avais trouvé ça très bluffant à l'époque, mais ça commence à dater, non? Ça, c'est, ouais. C'est au milieu des années.
C'est vers 2008. 2008 là, c'est parce que Sintel, sur lequel j'ai fait la direction artistique, où j'arrive juste après, c'est 2009. Donc voilà.
Très bien. Alors, une fois qu'on a mis le doigt dans la culture libre, dans les logiciels libres, on pousse même la logique à se confronter à des éditeurs de bande dessinée. Donc, est-ce que tu peux nous raconter? Alors, tu l'as raconté hein, sur le Framablog, on a mis le lien, on mettra le lien sur la page de l'émission, mais finalement, l'histoire de Pepper and Carrot vis-à-vis de Glénat, moi j'ai trouvé ça extraordinaire à lire. Enfin, je trouve que c'est un pied de nez au modèle imposé, au modèle économique. Oui, c'est ça qu'on veut nous imposer et qu'on n'a pas le droit d'interroger. Moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Alors, j'ai été démarché par Glénat, oui, je vais essayer de faire court.
Voilà, c'est ça, j'allais te dire, tu as 17 minutes, pas plus.
D'accord, oui. Donc Glénat m'ont démarché par email, mais comme ils le font pour beaucoup d'auteurs, surtout à l'époque, et d'autrices hein, sûrement, donc on est envers 2014-2015 par là, et ils ont donc une direction artistique qui recherche les talents du web en gros, hein, donc ils regardent les webcomics, et puis ceux qu'ils trouvent sympas, voilà, pour en faire une édition papier. Et Pepper et Carotte va tomber à peu près dans ce schéma-là. Donc j'ai une fois un petit email en me demandant de faire un petit dossier rapide pour pouvoir faire une réunion. Voilà, donc je leur fais ça. Et puis ils me disent, voilà, ça nous intéresse. Et après, ils m'envoient directement tout pour l'éditer suivant leur process. C'est-à-dire, ils ont leur contrat, il y a tout qui est prêt. Et c'est là que je dis non, mais ça va pas le faire, je suis pas d'accord moi avec ça, parce que dedans il y a directement marqué les mots d'exclusivité, de droit d'auteur, c'est vraiment pas du tout le délire derrière Pepper et Carotte et comment je le fais quoi. Donc je dis on peut savoir par téléphone, et là je leur explique tout le truc. Et c'est vrai que il va y avoir un directeur artistique qui va être extrêmement ouvert à Glénat qui m'a dit mais ça c'est un super délire. On voudrait respecter les choses quoi. C'est-à-dire il y a l'audience qui est là autour, c'est une expérimentation, on va se mettre tout autour. Et donc j'en dis oui mais vous savez que voilà, moi mon délire c'est que on ne signe que ensemble la Creative Commons, c'est-à-dire qu'on soit pas liés du tout et que vous me donnez de l'argent que quand je publie un nouvel épisode comme les mécènes en fait. Mais bon, peut-être plus qu'un mécène normal, hein, là, voilà, parce que vous avez une utilisation industrielle. Donc ils vont dire, mais c'est intéressant, mais voilà, ça a d'autres implications. C'est-à-dire que si leur concurrent d'une autre maison d'édition décide de faire Pepper et Carotte, ils peuvent le faire aussi. Voilà, mais ils se disent, allez, on va tenter le truc. Et puis ça s'est fait comme ça, et puis ma foi, on en est au tome 4. Et ça se passe bien, et puis à côté de ça il y a d'autres éditions, il y a l'édition norvégienne cette année, l'année dernière c'était l'édition bulgare qui est sortie. Ça laisse comme ça tous les éditeurs faire leur version, enfin la version bretonne et la version occitane qui va sortir aussi cette année. Voilà, je suis très content moi de cette liberté, de cette non-exclusivité en tout cas, que la Creative Commons
Mais tu as dû passer beaucoup d'énergie pour essayer de les convaincre un peu, parce que ça bousculait quand même leur logique, leur modèle. Enfin, ils devaient pas être habitués à ce que quelqu'un comme ça les interpelle en leur disant mais c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, et pousser à aller jusqu'au bout. Enfin, ça c'est étonnant quand même que en plus dans le monde de la BD, Glénat, c'est quand même ça s'impose, quoi. Je veux dire.
Je pense que je n'ai pas de mérite. Je pense que c'est vraiment le directeur artistique qui est là qui sur le coup va voir un projet extraterrestre et va se dire ah mais c'est un délire. Ça fait un peu edgy. Ça fait un peu que Glénat se positionne sur quelque chose, voilà, il y a peut-être une logique marketing derrière ça,
de se
dire voilà, on essaye quelque chose de nouveau, voilà, il y a tout ça, et de dire ben on va essayer de faire le délire total. Alors c'est sûr que ça a fait la gueule au département légal, ça j'en ai eu des petits échos, ouais. Parce que eux ils ont leur process, ils ont leur contrat, ils ont leur truc, et donc d'avoir à lire toute la Creative Commons et savoir où est le loup là-dedans et qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Voilà.
Mince, ils pouvaient pas utiliser les modèles qu'ils avaient préparés dans leur ordinateur, alors en fait. C'est ça, ils étaient obligés finalement de réécrire quelque chose.
Et puis à chaque fois que je fais une couverture, là, sur les 4 tomes, il faut savoir que j'ai reçu le modèle de contrat d'exclusivité. Et ça, et qu'à chaque fois, je le refuse. Parce que c'est tellement des process de. On met l'email de l'auteur et puis hop, ça envoie directement toute la paperasse et tous les trucs, que je continue de recevoir ces modèles types. Hein. Ils ont vraiment une structure qui biberonne les auteurs. Donc moi c'est vrai que je suis vraiment à part. Quand je vais faire de la dédicace pour Glénat, ben oui, je vais jouer à l'auteur parce que je ne gagne pas sur les ventes des albums. Moi c'est quand je fais un nouvel épisode que je gagne de l'argent.
Oui, alors après on parlera tout à l'heure du modèle économique, tu nous en reparleras tout à l'heure, mais ça aussi c'est extrêmement intéressant. Mais en tout cas ça montre que du coup on peut avoir un partenariat avec Glénat, qui est quand même encore une fois dans le monde de la BD plutôt connu, quoi, pour ceux qui s'intéressent un peu à la BD, quoi. Donc je trouve ça extrêmement extrêmement intéressant. Donc évidemment, si vous voulez avoir le détail de tout ça, si vous voulez passer un peu de temps à la lecture, allez sur le Framablog, hein, vous avez un peu plus d'éléments pour comprendre les tenants et les aboutissants. Bah écoute, je vais repasser la parole à Isabella.
Tout à fait. Je pense que c'est le bon moment pour une pause musicale. Et nous allons écouter By Force par Punch Deck. J'ai son que ça va venir. C'est By Force par Punch Deck qui va partir là.
Cause commune.
Nous venons d'écouter By Force par Punch Deck, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Isabella Vanni de l'April, l'émission Libre à vous d'aujourd'hui, consacrée à la bande dessinée et la culture libre. Laurent Costi, chargé de mission éducation et com numérique au CMEA, anime l'échange sur ce sujet avec nos deux personnes invitées, David Revoy et au téléphone, et J, depuis le studio. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent.
Merci Isabella. Alors on était avec David qui nous racontait un peu son aventure avec Glenna. Et puis je vais revenir un peu vers G parce que moi, en tant qu'amateur de BD, on va dire, j'ai découvert son générateur de Grisbouille il y a maintenant, je ne saurais même pas dater, mais je pense il y a plus d'une dizaine d'années. Non, enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il est créé depuis au moins...
Alors je sais, j'ai plus la date exacte en tête. D'ailleurs à l'époque il s'appelait Générateur du Geekctionnaire puisque ouais. Le blog a changé. Hein.
Le nom était très complexe à retenir. Je galérais à chaque fois à retrouver le générateur.
C'est pour ça qu'on l'appelait GG. Oui c'est un vieux logiciel d'autant plus que c'est un fork. Donc c'est l'adaptation d'un ancien logiciel qui était publié par Mozilla me semble-t-il. Et j'ai complètement oublié le nom. Je suis désolé. C'est quelque chose avec comique dedans. Si quelqu'un retrouve, je suis désolé, j'aurais dû le noter. Et ça a été adapté par un camarade de Framasoft qui s'appelle Cyril et qui s'était dit tiens je vais prendre des dessins de G et les mettre dedans et puis on a publié ça sur un petit site qui s'appelle Framalab hein, qui était un peu le site où on mettait les petits projets comme ça sans trop de prétention mais qui était sympathique. C'est vrai qu'il est toujours là hein. Ouais. Alors c'est marrant parce que oui c'est je crois qu'il est pas mal utilisé quand même et moi je vois assez régulièrement passer des dessins qui sont entre guillemets de moi, c'est-à-dire que le dessin est de moi mais la mise en forme et le texte ouais, ne sont pas de moi.
Bah pour tout te dire, moi, je travaillais dans le milieu associatif, je l'utilisais par exemple pour illustrer des comptes rendus d'activités et je trouvais que ça donnait un compte rendu d'activité qui avait que des textes ou éventuellement quelques photos, bah ça donnait voilà, un cachet supplémentaire et ça intéressait les gens de le parcourir de manière un peu plus avancée. Quoi.
Ouais,
ça,
c'est sûr. Et puis Cyril avait vraiment mis beaucoup, beaucoup de dessins dedans et on a rajouté d'ailleurs au fil des années hein, parce que bon, comme je publiais quand même assez régulièrement sur le Geekctionnaire, et toujours maintenant sur Grisbouille, bah il y a de quoi faire en fait. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai aussi donc on en parlera peut-être après mais je fais du dessin à la commande hein, aussi donc les gens peuvent me commander des dessins ou des choses comme ça et il y a quelques mois de cela il y a la CGT de l'université Aix-Marseille qui m'a demandé un logo, enfin pas un logo, une mascotte et qui se trouve que c'est un petit poulpe. Alors c'est rigolo parce que je sais que David a fait un logo pour Peertube qui est un poulpe également comme quoi
Zurita est un poulpe aussi au CMEA donc voilà.
Mais c'est pas les mêmes, ils ont pas la même tête. Et donc cette CGT Université Aix-Marseille me dit ah mais on aimerait bien pouvoir le bouger un peu ce poulpe pour l'utiliser pour différentes cas de figure. Est-ce que tu pourrais nous faire des variantes notamment dans la position des tentacules ou dans les yeux tout ça et puis en fait nous faire une adaptation de GG pour qu'on puisse le mettre sur un serveur puis nous avoir le nôtre avec ce poulpe en plus. Et du coup ce que j'ai fait parce que c'est un logiciel qui est très pas très basique comment dire mais très simple à installer, c'est à dire bon si on parle un peu de technique c'est du JavaScript donc ça demande pas une installation compliquée sur un serveur, tu mets ça sur une page web et ça fonctionne tout seul donc ouais du coup j'avais fait ça en plus quoi.
D'accord, donc là encore une fois on décentralise, chacun a ses propres outils, chacun est responsable de ses outils, donc là on est toujours dans des logiques pertinentes pour que les gens s'approprient les outils et les maîtrisent. Ouais. Très bien. Et alors est-ce que du coup est-ce que t'as été confronté des fois à découvrir des utilisations de tes dessins que tu ne cautionnerais pas?
Écoute, pour le moment non, mais je pense que ça arrivera sans doute, notamment si j'arrive à mon but qui est de me faire un peu plus connaître. Mais pour le moment non. Alors par contre j'ai déjà l'inverse qui est arrivé, enfin pas l'inverse mais quelque chose de similaire qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on m'a déjà pingé, enfin on m'a déjà notifié sur un média social, je crois que c'était sur Mastodon, pour me reprocher une BD qui avait été faite avec le générateur du le GG, un générateur de Grisbouille disons, alors que du coup c'était clairement pas moi qui avait écrit le texte, mais c'est vrai que comme on voit mes dessins, si on me connaît, si on situe qui je suis, c'est moi qu'on vient voir, et donc j'avais dit non, c'est pas moi qui écrit ça, et on m'avait fait remarquer que ce serait bien que ce soit plus évident, mais c'est vrai que c'est un peu les gens qui l'utilisent qui qui gèrent comment ils mettent les crédits finalement. Donc moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on précise que les dessins viennent de ce site et éventuellement en me citant moi, parce que bon, je suis l'auteur des dessins. Mais c'est vrai que la liste, même si c'est sous licence libre, petit point technique, mais on peut pas attribuer à quelqu'un d'autre une œuvre. C'est-à-dire que moi, si je prends des dessins, je fais le truc inverse. Hein, si je prends des dessins de David et que je mets des horreurs dans la bouche de ses personnages, je ne peux pas prétendre que
tu
c'est David qui l'a
pas.
Fait. On a déjà fait des trucs de ce style, hein, David. Je ne peux pas.
Ouais. Non, mais effectivement, d'où l'importance de bien respecter la licence finalement, parce que on est obligé de citer l'auteur. Donc moi,
oui,
je
mais,
sais
mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire bien que sûr. Non seulement tu dois citer l'auteur, mais si tu modifies des choses, tu dois le dire aussi.
Bien sûr.
Tu peux pas dire ah bah ça c'est un truc de David.
Oui, si ça marche c'est moi, si ça marche pas c'est l'auteur. D'accord, ouais, c'est intéressant, voilà. Ça comme
il faudrait vraiment que G aille vraiment très très loin pour que j'aille faire jouer mon droit moral contre lui, quoi.
Bah, d'autant plus que je pense qu'on est quand même assez d'accord sur pas mal de trucs, donc ouais.
Oui.
Non, mais c'est intéressant d'avoir cette perception là des choses. En tout cas, voilà, cet outil là moi je trouve qu'il est extrêmement intéressant pour illustrer facilement des comptes rendus d'activité quand on est en milieu associatif, mais voilà, des pages web, etc., quoi. Ou même sur les réseaux sociaux, je crois que c'est Étienne qui signalait qu'il l'utilisait parfois sur les réseaux sociaux, donc voilà. Encore un bel outil, moi je trouve. Alors je vais revenir vers David pour qu'il nous raconte un épisode aussi pas très très drôle qu'il a vécu aussi avec un générateur, hein, puisque c'est son générateur d'avatar, de chat, qu'il a fait. Alors il va nous refaire l'histoire un peu de ce générateur de chat, mais que j'ai aussi à un moment donné utilisé, sans savoir à l'époque que c'était David Revoy qui avait fait les dessins, mais voilà, il va nous raconter un petit peu ça, et puis sa mésaventure avec la question des NFT, et ça posera peut-être la question, mais ça on pourra peut-être en discuter à trois, cette question là de la clause non commerciale finalement, qui n'est pas une licence libre quand on l'ajoute à une licence Creative Commons, mais qui pourrait potentiellement protéger dans ces moments là alors je vais laisser David développer, et puis on reviendra sur ce sujet là
dans une heure. Non, je rigole. Non, mais c'est sûr qu'on enchaîne sur les mésaventures avec la licence libre, et ça c'est vraiment un des points qui va illustrer. Bon, bah, sur Paper et Carotte, par exemple, j'ai déjà eu beaucoup de mauvaises utilisations. Hein. J'ai déjà eu un Kickstarter qui s'est prétendu, quelqu'un qui s'est prétendu être moi sur Kickstarter pour vendre du Paper et Carotte, et qui a presque réussi. Donc c'était tout un bordel à pouvoir prouver que c'était pas moi, quoi, qui faisait ça. Bon, bah, après, il y a des utilisations plus classiques comme les rules 34, mais ça, bon, je laisse faire parce que on va dire que
les
ça
rules 34 tu peux expliquer, parce que moi je connais pas, donc
non, je ne souhaite pas expliquer.
Bon, d'accord, ok.
tu veux que j'explique?
Ouais, je veux bien.
C'est une règle d'internet qui dit que si quelque chose existe, il y en a une version pornographique.
Ah oui, bien sûr, oui, ça y est, ça me revient, d'accord, ok, merci. Voilà, merci pour cette explication, parce que je pense que j'étais pas le seul à ne pas savoir.
ça manquait de ce petit truc là dans cette émission là. Et donc il y a eu aussi donc utilisation en NFT de mes travaux, donc de planches de Paper et Carotte, et donc de ce générateur d'avatar de chat. Alors ce générateur d'avatar de chat, je l'ai fait pour le blog, mon blog à l'époque, puisque j'utilisais Gravatar avant ça, un système qui permet que les personnes, avec leur email, ça va choper l'avatar qu'ils ont mis sur le site Gravatar. Et donc quand ils se connectent sur mon blog, mon blog, par personne qui met un commentaire, va aller demander à Gravatar leur avatar en fonction de cet email et pour pouvoir l'afficher. Bon, c'est un gros problème de tracking parce que, oui, à partir du moment où on va se connecter à un site et montrer que qui lit quoi comme article, donc je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais je voulais pas non plus retirer simplement les avatars de mon site. Donc, je décide de faire un générateur d'avatar, j'en reprends un qui existe, qui a été fait par quelqu'un, j'ai son nom qui m'échappe, mais je modifie donc les PNG pour pouvoir faire des petits chats, et ça fait donc des chats aléatoires qui changent de couleur, qui ont des fourrures différentes, qui ont des yeux différents, voilà, donc
des monocles, des choses comme ça, oui, tout à
voilà,
fait.
C'est ce qui va animer en fait mon site web, et puis j'en fais une petite version un peu ce qu'on dit standalone, c'est-à-dire qui marche sur une page comme ça, parce que très vite j'ai vu qu'il y avait des personnes qui mettaient des commentaires simplement pour voir quel chat ils allaient avoir, donc voilà. À ce moment-là, je fais ça, et puis très vite, je vais faire aussi celui d'oiseau, celui de voilà, etc., etc. Mais bon, à un moment donné, il y a cette passion des NFT qui arrive.
Alors on va expliquer, il faut qu'on explique peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors je vais essayer de résumer, puis vous me compléterez. Donc les NFT, c'est basé sur la blockchain, et l'idée c'est d'attacher une signature à une œuvre, on va le dire comme ça. Et finalement, ce qu'on vous vend, c'est la signature, c'est pas forcément l'œuvre, puisque l'œuvre, elle peut être dupliquée à l'infini. Donc,
C'est une tentative en fait de recréer de la rareté dans le numérique. C'est-à-dire que si tu peins un tableau, on peut pas copier le tableau, on peut faire une photo, mais je veux dire, c'est pas la même chose. Et là, ce qu'on se dit, c'est que quelqu'un comme David ou moi qui font des dessins numériques, ils sont copiables, mais il faudrait qu'il y ait de la rareté. Alors déjà, moi je suis pas forcément d'accord avec ce postulat de départ, mais admettons. Et oui, effectivement, c'est basé sur la blockchain, et NFT, ça veut dire non-fungible token, donc c'est en gros un jeton que tu ne peux pas copier. Et l'idée, c'est que chaque jeton va être attaché à une image, et c'est censé te garantir la propriété de l'image. Sauf que, comme tu l'as dit, c'est du numérique, donc l'image reste copiable. Donc le seul truc que tu peux pas copier, c'est le jeton, mais quelque part, là, on est sur le cœur du problème qui est pas tant technique. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique du droit d'auteur et du droit tout court, c'est un problème qui est principalement social ou culturel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu aies une adhésion à l'autorité, c'est-à-dire qu'il faut que tous ensemble, on se dise, c'est bien les NFT, on considère que c'est quelque chose qui a de la valeur. Déjà, c'est pas le cas. Il y a plein de gens, et moi compris, qui trouvent que ça n'a aucune valeur. Et ensuite, il faut avoir des moyens de coercition et des moyens de la faire respecter. C'est-à-dire qu'il faut que si quelqu'un copie l'image qui est protégée par un NFT, une autorité, une police, je sais pas, qui aille faire respecter la loi. Et là, c'est pareil. Pour le moment, c'est pas reconnu. Donc, bref. Oui,
sans compter tous les problèmes liés évidemment à la question énergétique, hein, puisque la blockchain, etc. Ouais. Donc, on va pas revenir sur ce sujet-là parce qu'on a d'autres choses à dire plus intéressantes. Mais en tout cas, on peut résumer ce qui a été mis dans le chat. Hein, NFT égale caca. Les gens autour de la table sont un peu convergents sur cet avis. Voilà, je te laisse.
J'aime beaucoup ce résumé. J'adhère. Donc,
je crois que c'est...
voilà.
Et donc, vas-y, je t'en prie. Voilà.
Quelqu'un va avoir la bonne idée de se dire, parce que très vite, il voit que des gens qui créent, qui mettent des NFT, donc qui mettent dans cette base de registre notarial 2.0, quoi, on va dire, qui mettent des dessins dedans, ils disent, on peut en mettre plein. Il suffit d'avoir des choses pour générer. Donc on va mettre des têtes de gorille, on va mettre des je sais pas quoi. Et puis il y en a un qui va se dire, là, je savais qu'il y avait un petit générateur de chat sympa, et puis qui était sous licence libre. Donc je vais le générer, je sais pas, je me rappelle plus combien il en avait généré, peut-être 20 000 chats, ou c'est 10 000 chats.
Mais David, là il y a un truc, j'ai oublié de préciser le fait que de fait, en fait, cet outil NFT est principalement un outil de spéculation aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il y a de la génération dans tous les sens d'images, parce que ça permet de créer des valeurs artificiellement. Voilà.
Oui, sur le principe des cartes à collectionner. Ouais. On va dire quel chat moi je vais pouvoir réserver, ça sera mon chat unique, soi-disant, avec sa plaque d'immatriculation dans cette base de registre notarial fait par cette blockchain. Donc, c'est ça. Il y a un utilisateur qui a fait, je sais pas, 10 000 comme ça, puis qui a commencé à avoir des ventes à droite à gauche, et puis à avoir une petite somme d'argent. Sauf que, c'était mis en mon nom, et quelque part, ma licence libre Creative Commons Attribution, lui permet. C'est ça le problème. Donc après, il n'y avait que mon droit moral pour dire, NFT égale caca, moi caca je veux pas pour mon travail, donc droit moral. Mais le droit moral, c'est une règle qui est assez francophone, et aussi qui coûte beaucoup de temps de lancer un procès contre quelque chose comme ça, surtout contre quelqu'un qui n'est pas là. Donc j'ai fait ce que ferait quelqu'un qui n'a pas beaucoup de recours et qui est un peu dans un coin. J'ai fait un bon gros blog où j'ai exprimé ma colère dessus.
Ça aussi, c'est sur la page de, ce sera sur la page de l'émission, évidemment.
Voilà, c'est un bon matin où je me suis dit, il y a gros foutage de gueule. Aujourd'hui, je comptais dessiner des petites sorcières avec leur chat et puis m'amuser à ça, mais là, je peux pas. Je suis pollué intérieurement, quoi. Donc, il faut que je vide ça sur le blog. Et donc, j'ai poussé ma gueulante en disant, n'achetez aucun NFT qui est fait à mon nom ou à mon art, quoi. Parce qu'il y avait aussi des pages de Pepper et Carotte, il y avait aussi pas mal d'autres choses en NFT qui se sont vues à l'époque.
N'achetez aucun NFT en fait.
Oui.
D'une manière générale.
Oui, voilà. C'est vrai que oui, j'aurais pu dire carrément ça, mais là c'était plus de dire, si vous respectez mon travail, c'est-à-dire si vous regardez au moins le blog et que vous lisez, sachez que ça, c'est pas là. ça fait pas partie de la maison, quoi.
C'était important que tu fasses cette page pour lutter contre la connerie humaine, puisqu'on a vu dans la chronique précédente que ça datait depuis très très longtemps et qu'on n'en est pas sorti a priori.
Mais bah, oui.
Voilà.
La connerie humaine.
Oui, c'est ça. Exploiter les travail des autres, etc. Enfin bref. En tout cas, merci pour cet éclairage. Alors c'est vrai que du coup ça résout pas. Hein, ces questions de licence, elles sont jamais terminées. Hein, ça interroge toujours la question de quelle licence. C'est un combat toujours quotidien que de choisir une licence libre selon les quatre libertés initiales, etc. Et on voit bien que ça protège pas de tout et que ça ne suit pas forcément le cours qu'on aurait souhaité. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est remarquable, en tout cas tout le travail que vous faites et puis la voie que vous tracez, en tout cas par rapport à tout ça.
C'est gentil, merci.
C'est bien qu'on ait du temps et puis un peu de temps et puis une audience pour le dire. Alors, on n'a pas encore abordé, on approche doucement, tranquillement vers la fin, on n'a pas encore abordé peut-être la question des finances. Moi, je trouve qu'il faut que vous en parliez, ça me semble extrêmement important, parce que justement, vous abordez la question du financement complètement à l'envers des moyens qu'on veut nous imposer. Donc, je veux bien que vous en parliez respectivement. Je ne sais pas, tu commences, Thi ?
Ouais, ok. Alors moi, ça fait pas super longtemps que j'ai commencé à essayer vraiment d'en vivre, donc je n'en vis pas encore. Pour le moment, je vis surtout sur mon épargne. Épargne qui vient du fait que j'avais plutôt un bon boulot et qu'il y a eu une crise Covid qui fait que je suis pas parti en vacances, que j'ai pas été au resto pendant assez longtemps. Et que... Bah non, mais comme il y a beaucoup de monde qui était dans mon cas, hein, il faut être honnête. Mais bon, ça, petit à petit, ça vient. Et en général, quand je veux le résumer, je le résume en trois points, c'est-à-dire qu'il y a un financement du passé, un financement du présent et du futur. Le financement du passé, c'est le fait que j'ai publié des bouquins et que ces bouquins existent. Et du coup, ben, il continue à être vendu régulièrement, donc c'est un peu une rente. Alors, c'est pas vraiment une rente parce que si je compte les heures de travail passées à créer ces bouquins, elles sont pas remboursées encore, hein, même au SMIC. Mais bon, voilà, c'est quand même un financement qui vient même s'il n'y a plus de travail fait. Le présent, c'est le principal, c'est le financement participatif, et je crois que pour David, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire ce sont des gens qui donnent volontairement des sous pour des œuvres qui sont gratuites, ce que je trouve vraiment chouette et assez incroyable. Et moi, la façon dont j'ai de présenter ça, c'est de dire que quand tu achètes un bouquin sous copyright classique, tu l'achètes pour toi, et quand tu fais un don pour quelqu'un qui fait de l'art libre, ben, en fait, tu l'achètes pour tout le monde. Et ouais. Puis finalement, très vite, le financement du futur, mais j'en parlais tout à l'heure, je dis ça un peu entre guillemets, c'est quand quelqu'un me commande quelque chose. Et le gros avantage dans ce cas-là, c'est que je peux facturer exactement les heures de travail que je vais passer dessus, ce qui n'est pas le cas pour le reste, où là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi.
D'accord, merci pour cet éclairage. Alors sur la page, alors c'est sur grisbouille.net. Alors, non, c'est sur petitluc.net
.net, ouais, où il y a différents moyens de me faire des dons, effectivement. Donc, c'est principalement des questions de plateforme. Hein, donc, c'est Tipeee, Utip, Liberapay, PayPal. Mmh.
Et puis, tu mets aussi une jauge qui te permet de. Ouais. Qui permet aux gens de se situer finalement sur...
C'est ça, oui. En fait, ça c'est venu petit à petit. En fait, je me suis rendu compte que on croit toujours qu'on communique assez, et en fait, c'est rarement vrai. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait peu de gens qui savaient exactement quelle était ma situation, qu'est-ce que je faisais. Et c'est vrai que du coup, régulièrement, je fais des articles que j'appelle les Quad Neuf, où je dis où j'en suis, qu'est-ce que je fais, sur quoi je travaille, et à chaque fois il y a un bilan sur les finances, effectivement, avec une petite jauge, je dis là j'en suis là j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé, l'objectif pour le moment c'est 1 600 € par mois, et j'en suis encore relativement loin, et en fait oui, je me rends compte que le fait de communiquer là-dessus, mine de rien, en fait ça augmente un petit peu les dons, parce que ça, beaucoup plus de gens se rendent compte que il y a besoin de donner, en fait. Voilà.
Oui, c'est important, je pense. Ouais, mais c'est vrai que ça demande du temps supplémentaire que de communiquer, ouais. Évidemment. David, est-ce que tu peux nous raconter un peu toi comment ça se passe de ton côté ? Alors moi, j'ai vu la comparaison entre les premières pages de Pepper and Carrot, hein, et puis l'appel au don, oui. Finalement pour ces pages, et puis les dernières où il y a un peu plus de monde en fait.
Oui, alors au tout début, hein, je me suis lancé dans Pepper et Carrot en me disant mon but dans la vie c'est de faire simplement maintenant de la BD parce que je suis en burn-out, donc je la fais comme ça sur mon blog, et puis je vais continuer ma carrière freelance à côté. Donc la monétisation est rentrée en compte qu'à partir de l'épisode 3 où là j'ai commencé à demander aux personnes, là ça suffit quoi, parce que bon, j'ai un boulot à côté, ça prend beaucoup de temps, je peux pas faire ça comme ça quoi, sur le temps des week-ends. Et bon, à ce moment là arrivait Patreon. Moi c'est là que Patreon arrive, donc c'est un outil fait pour les youtubeurs qui commençaient à perdre un peu d'argent parce que les revenus publicitaires commençaient à baisser pour eux, donc ils font un outil comme ça de donation, et je trouve que c'est bien de l'avoir pour la bande dessinée aussi, donc je me l'approprie à ce moment-là. Et très vite, ben voilà, il va y avoir d'autres plateformes Tipeee qui vont copier un peu le principe. Et puis Liberapay aussi, l'alternative libre qui va arriver dedans. Donc ben actuellement, moi, je vis de Pepper et Carotte, hein, depuis le début que j'ai mis la monétisation. C'est pas tout à fait vrai parce que les tout débuts, pareil, j'avais mis de l'argent de côté. Je crois que j'ai mis 10 000 euros de côté comme ça que j'ai injecté au fur et à mesure quand j'étais malade, quand j'arrivais pas à suivre le rythme ou quelque chose pour faire tampon parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup de. Moi, c'est quand je sors un épisode en fait que je touche une cagnotte. Donc les premiers épisodes, quand il y avait que 500 euros par exemple qui tombaient pour un épisode, alors que j'y passais 2 mois, bon ben on voit très vite que voilà, il fallait un tampon pour pouvoir passer dedans, mais bon, ben, j'y croyais, et puis de toute façon j'étais capable au niveau énergie de ne faire que ça, quoi. Donc je me donnais à fond là-dedans, et puis ben, on est arrivé quand même assez vite à une cagnotte qui me permettait de faire des épisodes. Mais voilà, le niveau technique et puis tout ce qui est le système de traduction et compagnie, bah, a très vite fait que le projet a pris énormément d'ampleur au niveau de somme de travail. Et maintenant, je suis obligé de prendre 2 ou 3 mois pour faire un épisode. Donc voilà, la cagnotte va être à peu près dans les 3000 euros actuellement pour quand je fais un épisode. Mais si on le redivise sur les 3 mois de boulot, voire plus, bah, actuellement, oui, je galère toujours plus ou moins. Mais à côté de ça, ben voilà, j'ai fait l'édition papier anglaise. Ça fait une petite source de revenus passive comme ça, parce que maintenant que c'est fait, c'est les albums qui se vendent. Il y a la petite boutique, mais tout ça, ça va être assez pour couvrir des frais de genre de serveur, des frais d'abonnement de ci, de ça. Ce n'est pas non plus des sources encore. C'est pas des gros fleuves, quoi, mais ça s'ajoute et ça aide quand même. Donc voilà, c'est un peu la situation. Et dernièrement, je fais aussi ces illustrations en commission pour Framasoft, et ça m'aide beaucoup entre les épisodes, justement, à avoir aussi une petite source de revenus sur lequel je peux compter aussi, voilà, à ce moment-là, pour faire tampon entre les épisodes de Pepper et Carotte.
Mais si j'offre par exemple une BD marquée Glénat à ma nièce là, tu touches, enfin c'est au nombre d'albums, enfin comment ça remonte finalement à l'auteur?
Alors ça remonte simplement pas.
C'est-à-dire
que oui. Voilà,
je voulais que ce soit clair.
Voilà. Alors vous allez avoir par exemple un prix très intéressant en librairie sur les albums de Pepper et Carotte. Ils sont pas à 14 euros ou 13 ou quelque chose comme ça, ils sont dans les 10 et quelques. C'est parce que justement il y a la part qui devrait me revenir pour auteur qui est déjà amputée quelque part. Donc bon, ça, il y a déjà ça qui permet de faire l'album un peu moins cher. Et ensuite, Glénat, eux, sont mécènes, comme j'avais dit. Donc, quand je vais sortir un nouvel épisode, ils sont mécènes à hauteur de 950 dollars actuellement. D'accord. Mais ils peuvent le retirer du jour au lendemain. D'ailleurs, il y a eu une anecdote l'an dernier, comme quoi ils n'avaient pas mis à jour leur carte bleue, parce que bah, je sors des épisodes très rarement, et les cartes bleues, ça expire beaucoup plus vite que mes épisodes. Donc, je me suis dit, mais mince, ils se sont retirés. Mince, mais c'est un tiers du budget de Pepper et Carotte qui part. J'étais un peu au fond du seau. Et puis là, ils m'ont dit, non, c'est simplement la carte bleue qui a expiré. Et voilà. Donc, tout se repose sur la confiance, et bon, au début ils augmentent au fur et à mesure de leurs ventes, mais ça c'est un peu au bon vouloir. Moi je n'ai pas de regard comptable sur les ventes. Ouais. On m'a annoncé 15 000 exemplaires, je ne sais pas combien de plus ça peut être vendu. Ça c'était il y a de ça 2 ans qu'on m'a annoncé ça, donc
vaut mieux, donc si enfin vaut mieux te soutenir directement sur le site.
Ah oui, quand je fais des dédicaces, j'en parle aux personnes et je leur dis, voilà, si vous voulez soutenir la série, c'est bien d'acheter l'album parce que ça aide Glénat à m'aider, quelque part. Leurs 950 dollars, ils sont pas magiques non plus, ils sortent pas de rien. Et puis, ils prennent le temps, ils assurent aussi peut-être qu'il y aura un tome 5 avec eux, enfin tout ça. Donc ça c'est pas mal, mais c'est vrai que pour m'aider moi directement à faire ma vie, quand j'ai le nez bouché comme maintenant parce que je suis malade ou des trucs comme ça, et ben voilà, là c'est sur Patreon, Tipeee, enfin c'est surtout l'aide récurrente, par exemple sur Liberapay. Il y a des personnes qui décident de donner de manière inconditionnelle sur le site Liberapay, quoi que je fasse, quoi. C'est-à-dire même si quand je travaille pour autre chose, ça marche par moi.
Voilà, oui, ça donne de la perspective, ça c'est extrêmement important, effectivement.
D'accord. Oui, c'est vrai que ils sont pas nombreux, mais c'est un petit socle qui revient fréquemment, et c'est très important pour moi, ça aussi. Donc voilà, c'est une géométrie assez variable.
Non, mais merci pour cet éclairage. Je pense que c'est extrêmement important d'éclairer aussi la question financière quand on s'engage pour le libre. Comme ça, les gens comprennent mieux, hein, parce que finalement, c'est pas si simple que ça à comprendre, tous les montages. Alors, encore une fois, on se rapproche de la fin, il nous reste même pas 10 minutes. Alors, Alors, Guy voulait nous parler d'un projet qui est en phase de finalisation, je crois. Donc, profites-en.
Tu voulais nous demander nos projets plus ou moins proches. Et c'est vrai que, en ce moment, j'ai un petit peu la tête dans ce truc qui est un jeu vidéo que je développe, qui s'appelle Superflu Returns. Et c'est volontairement mal prononcé. Hein. Ça s'écrit Returns en phonétique. et c'est donc Superflu, c'est un super héros de bande dessinée que j'avais créé il y a quelques années. Et au début, je disais que je faisais beaucoup de choses. J'avais mis artiste multimédia, voilà, donc, parce que je fais du dessin, de l'écriture, de la musique, tout ça. Et en fait, ce projet-là me tient particulièrement à cœur parce que c'est la première fois que je peux mettre absolument toutes mes compétences au service d'un seul truc. C'est-à-dire que d'habitude, quand je fais de la musique, ça intéresse pas forcément les gens qui lisent mes BD. Quand je fais de l'écriture, pareil. Et là, en fait, il y a tout. C'est-à-dire que il faut que je fasse des dessins et des animations pour le jeu. Forcément, il va y avoir des musiques. Il y a énormément de développement. Et moi, je suis développeur informatique de formation. Donc voilà, c'est un peu... Je me dis, c'est la première fois que ça sert à quelque chose que je fasse tout ça. Parce que souvent... les choses ne te servent qu'au moment où tu t'en sers, quoi. Et donc voilà. Et ça fait pas mal de temps que je bosse dessus et je suis un peu dans le sprint final. Donc j'espère que ça va marcher, mais pour le moment, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Ouais.
D'accord. Alors tu vas nous donner une date à la radio, ce qui t'obligera à la tenir.
Alors je l'ai déjà repoussé plusieurs fois, donc bon.
C'est pour ça que
techniquement, j'avais dit mai, probablement 15 mai, normalement.
D'accord. Bon, écoute, on t'en voudra pas si c'est un peu décalé encore, mais on te souhaite de le sortir effectivement pour le 15 mai. Par rapport au projet plus ou moins proche, alors évidemment, j'imagine que t'as la tête dans Pepper and Carrot, David, et puis que ça mobilise quand même la majeure partie de ton temps, sauf si t'as d'autres projets à nous signaler.
Non, je suis toujours en route vers le prochain épisode. Mais je voyais dans le chat une voilà. question par rapport à ne pas piger l'argumentaire de Glénat par rapport à l'absence de rétribution à la vente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêcherait, avec par exemple ma licence ou quelque chose comme ça, ce genre de fonctionnement? Alors, en fait, ça n'empêcherait rien du tout. Hein. Quelqu'un peut avoir une licence libre et demander une rétribution à la vente, à l'album. C'est moi qui ai refusé, hein, parce que eux me l'ont offert par défaut. Même après, c'est moi qui ai voulu aussi que ça soit par épisode, c'est pour ne pas avoir une logique marketing de devenir un vendeur de papier. C'est-à-dire que je ne voulais pas finir chaque blog post avec et surtout acheter la version Glénat, voilà, parce que ça me rapporte des sous, quoi, ou quelque chose comme ça. Je voulais être déconnecté de l'objet et ne pas être dans une logique mercantile par rapport à un objet qui ne m'appartient pas. Parce qu'après, là, il pouvait y avoir un jeu de pouvoir, et je trouve que ce qui marche bien dans cette relation que j'ai avec Glénat, c'est justement que on est un peu côte à côte. Ils font l'album, je fais ça, mais il n'y a jamais eu tu devrais dessiner ça d'un côté ou tu devrais aller là en dédicace parce qu'on te paye ça. Il n'y a pas eu ce genre de petite prise d'otage, il n'y a jamais eu ça. Donc c'est ça qui
te sens libre dans la relation, quoi.
Oui, et vraiment, j'ai vraiment ce caractère d'indépendance et de rébellion qui fait que je ne pourrais même pas envisager autrement la relation.
Est-ce que c'est un caractère commun à tous les libristes? On peut se le demander. J'aurais tendance à penser que oui. Est-ce que, on arrive encore une fois, il nous reste à peu près 6 minutes. Peut-être que vous pouvez parler d'un logiciel libre que vous avez envie de mettre en avant et puis éventuellement un coup de cœur BD, puisqu'on est quand même, on a parlé de BD. Donc,
ok, je commence.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Alors, au début, je m'étais dit que j'allais parler d'Inkscape parce que c'est le logiciel de dessin vectoriel que j'utilise pour les BD, mais il est assez connu et en fait je voudrais évoquer un logiciel qui mériterait d'être beaucoup plus connu tellement il est super. C'est Ardour. C'est un logiciel qui permet de faire de la MAO, de la musique par ordinateur. Donc c'est une alternative, on va dire, à Pro Tools ou Cubase, je crois. Moi, j'ai jamais utilisé ces logiciels, mais je sais que c'est ça qui est connu. Et on reproche souvent au logiciel libre d'être un peu mal fini, mal foutu ou avoir des interfaces pas très pratiques. Et Ardour, je trouve qu'il glisse entre les doigts, quoi. Il y a un éditeur MIDI intégré qui est fabuleux. Enfin, pour quelqu'un qui fait de la musique, c'est vraiment super. Voilà. BD, du coup, c'est ça?
Ouais, donc, BD.
BD coup de cœur. Alors, moi, ça va peut-être t'étonner, mais j'en lis peu de la BD. J'en fais, mais j'en lis peu. Mais en ce moment, je suis dans une phase un peu nostalgique où je relis les Spirou et Fantasio, parce que c'était la BD ma BD préférée quand j'étais petit. Et donc, hier, j'ai lu L'Horloger de la Comète, qui est une BD de Tom et Jean Rie, donc qui date des années 80, je crois. Pour moi, c'est un peu les BD de mon enfance. Et super BD où Spirou retourne dans le passé avec le descendant du comte de Champignac. Et ouais, j'adore parce que les dessins sont magnifiques et au niveau du scénario, c'est vraiment un équilibre entre aventure et humour que je trouve fabuleux, quoi. Voilà.
Bah merci pour ce petit coup de cœur. Ouais, moi j'ai un très bon souvenir de QRN sur Bretzelbourg, qui doit être l'épisode 18.
Ça c'est du Franquin pour le coup.
Ouais, c'est du Franquin, tout à fait. Très bien, David.
Oui, alors. Pour ma part, moi, c'est bon, le logiciel, celui que j'utilise à peu près pour tout et puis qui m'accompagne, c'est Krita, krita.org, pour le logiciel de dessin. C'est là-dessus que je vais faire presque tout Paper et Carotte, avec Inkscape pour les textes.
Et plein de tutoriels d'ailleurs sur ton site, hein, pour les gens qui voudraient débuter, c'est extrêmement intéressant.
J'ai une petite chaîne YouTube, Peertube aussi, sur les deux, quoi, où j'essaie de repartager vraiment tous ces trucs-là. Bon, c'est en anglais par contre, ça c'est pour nos auditeurs et auditrices, savoir voilà, que c'est un peu comme ça. Et je le fais en anglais pour pouvoir toucher le plus de personnes, hein. C'est pas vraiment une volonté d'exclure les Français. Donc voilà. Puis le logiciel que je voulais, qui était un plus petit logiciel que je voulais mettre en avant, c'est Biref. Ça s'écrit comme bi, l'abeille en anglais, et ref, R-E-F, qui permet de coller des références d'images. Et ça, c'est très important pour pouvoir organiser des idées de façon visuelle, de mettre plein de petites images comme ça pour quand je fais un peu les concept art sur un épisode ou quelque chose comme ça. J'adore ce petit logiciel là, donc c'est un peu le petit logiciel du moment. J'ai peur qu'il va pas passer la barrière de QT5 à QT6, c'est des questions techniques, donc s'il y a des gens qui s'y connaissent, quoi, merci de contribuer, parce que je sais pas s'il est maintenu. Ça me fait peur que ce genre de petit outil en or disparaisse comme ça, voilà.
D'accord, bah écoute, moi j'ai découvert l'outil à l'occasion de la préparation de l'émission, donc intéressant, merci pour ce pointage. Il vous reste chacun une minute pour dire une chose que vous n'avez pas eu l'occasion de dire et que vous avez envie de dire.
Ah bah David n'a pas dit sa BD coup de cœur.
Ah pardon, j'ai coupé David.
Alors ma BD coup de cœur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est Family Compo de Tsukasa Ojo. Et oh, c'est ouais. le dessinateur qui a fait City Hunter. Voilà, c'est un manga qui est en 14 tomes. C'est simplement génial. Voilà, je ne vais pas dire plus.
Ça m'intéresse. Hein. Je veux bien la référence, du coup. Parce que moi, je lis un peu de BD, j'aime bien. Donc,
je la noterai dans le chat. Et voilà, aussi un petit mot. Je voulais simplement remercier vraiment toute la communauté Paper et Carotte, parce que sans eux, je ne serais pas là à parler, quoi.
Très bien, merci.
Et moi, un petit mot, oui, allez voir ce qu'on fait, allez voir ce que fait David, allez voir ce que je fais, soutenez-nous si vous pouvez, et notamment un truc qu'on a rapidement évoqué, mais c'est vrai qu'avec David, on a un petit jeu en ce moment sur Mastodon, où ça avait commencé par un délire où j'avais dessiné une parodie de Paper et Carotte, et il m'a répondu avec une espèce de parodie de Superflu, et du coup, on merge un peu les deux, enfin, on mélange un peu les deux univers dans un jeu de ping-pong comme ça, et on s'amuse bien.
Voilà. Ah oui, j'ai raté ça. Oui. Allez voir, alors. Très bien. Très très bien. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Je trouve que c'était extrêmement riche et intéressant d'approcher la BD par la culture libre. Et puis je vais repasser la parole à Isabella.
Tout à fait, j'allais demander à mon collègue Étienne d'ouvrir le micro et tu m'as précédé et je suis contente de savoir qu'il a eu cet échange sur les réseaux entre David et G, parce que justement une question qui m'était venue à l'esprit, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose ensemble, et voilà, c'est arrivé presque par hasard et donc c'est marrant. Est-ce que vous pourrez mettre aussi les références, j'aimerais bien voir ce fil.
Ça marche. Et si vous voulez,
je l'ai raté.
De mémoire, il y a le hashtag Comics Battle, c'est ça?
Comic Wars?
Je sais plus. Bon, pardon, mais on mettra les références, pas de souci.
Super. Oui. Et merci à nos invités pour cet bel échange. Merci à Laurent pour l'avoir préparé et animé.